Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour un nouveau podcast de la rédaction, podcast 567. Et vous l'aurez remarqué, comme une semaine sur deux, Plume est en vacances. Du coup, on se retrouve entre gens de bonne compagnie, puisque je suis aujourd'hui accompagné de Johnny One, qui lui n'est évidemment pas en vacances.
Ah non, jamais.
Malgré son statut
Johnny One qui dit qu'il n'est jamais en vacances. C'est vrai, ce qu'aussi savoureux que Plume qui se plaint quand on dit qu'il est tout le temps en vacances.
Et vous l'aurez compris, je suis aussi accompagné de Romain qui lui est en vacances à l'autre bout du monde.
Oui, c'est ça. Toujours au Japon. Je prépare les JO d'arrache-pied.
Bah, t'as bien raison, puisque au moins toi t'es sur place, tu devrais pas avoir de problème.
Ouais, Sinon, j'allais dire, s'il y a annulation, je prolongerai mes vacances.
Et tu reviendras avec un corps de rêve.
Oui, j'y travaille.
Tu ne l'auras pas préparé pour rien. On a évidemment, comme chaque semaine, un programme assez chargé, puisqu'on va vous parler de trois jeux différents aujourd'hui. On va commencer, évidemment, comme d'habitude, par le win et le fail. On va ensuite s'attaquer à Bandai Namco The Game, que Johnny a pu essayer, pour de vrai,
manette en main.
Donc évidemment, vous l'aurez compris, si vous nous suivez avec un tout petit peu de régularité, il s'agit de Scarlet Nexus, la nouvelle licence de Bandai Namco. Ensuite, on va vous parler de Ratchet & Clank Rift Apart, qu'on a vu, en l'occurrence, pas joué pour le coup, même si le jeu sort très bientôt, du coup vous allez avoir droit à mes impressions poilues. Et enfin, le secret de Polichinelle pour toi, Romain, c'était l'annonce de Lost Judgment, donc la suite de Judgment, Judge Eyes, je ne sais pas comment ils l'appellent en japonais cette suite.
Et Judge Eyes, au Japon, ils l'appellent partout pareil cette fois, c'est Lost Judgment partout.
Ils ont encore de l'orgueil.
Voilà, c'est plus simple comme ça, pas de problème.
Et du coup, tu vas pouvoir nous faire un petit récap de ce qu'on a vu, puisque ça a été présenté il y a quelques jours par ce cher Nagoshi, ouais, voilà, c'est ça. Les syllabes étaient pas...
Yamamoto, c'est ça.
Voilà, c'est ça. El Famoso. Mais avant ça, on commence évidemment par les rubriques habituelles. C'est donc l'heure du win et du fail. Et le win, il est pour toi, Romain. On en parlait hors antenne juste avant de commencer. C'est la série Resident Evil qui se porte, ma foi, très très bien.
Bah, la série dans son ensemble se porte bien et ça n'est rien de nouveau. Mais Resident Evil Village se porte très bien d'entrée de jeu. En fait, on sait que les Resident font des lancements plus ou moins bons, généralement bons, mais avec des degrés de variation.
Un peu moins pour le 7, si je dis pas de bêtises. Hein.
En fait. Oui et non, parce que le 7, c'était 2,5 millions, mais en 24 heures uniquement. Donc, c'était sur un laps de temps très court. Après, ça a un peu stagné, mais c'est un long seller, Resident 7. En plus, il a quand même souvent été mis en bundle avec le PSVR. Il a eu des baisses de prix. Enfin bref, tous les jeux baissent de prix, cela dit, mais sauf les jeux Nintendo.
Tout à fait.
Généralement. Resident Evil Village a fait 3 millions de jeux distribués depuis sa sortie, c'est-à-dire depuis vendredi dernier. Donc le communiqué de Capcom est sorti ce matin au Japon, donc 11 mai au moment où on enregistre ce podcast. Il y a évidemment eu le week-end, donc dimanche, où les boutiques n'étaient pas forcément ouvertes dans certains pays. Donc on va dire qu'en gros, il a fait 3 millions de jeux distribués en 3-4 jours, ce qui est pas mal du tout. C'est donc mieux que Resident Evil 3, par exemple, sorti l'année dernière. C'est un peu moins bien que Resident Evil 6. Resident Evil 6 qui avait fait un gros démarrage, mais qui s'était quand même bien cassé la figure dans la foulée en raison des critiques aussi bien de la presse que du public. Et c'est à peu près équivalent au remake de Resident Evil 2, qui était lui très 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 attendu, qui avait fait 3 millions d'exemplaires distribués en 5 jours. Donc là, sur le 2, il y avait quelques jours de plus, on va dire, mais c'est kiff. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Capcom, quand il donne ce chiffre, il parle des consoles PlayStation, donc PS5, PS4, Xbox, donc Series X, S et Xbox One, et aussi PC. Sachant que sur PC, il est sorti que en démat, ça veut dire que ça compte et les chiffres de jeux distribués et aussi les ventes dématérialisées sur PC, et je pense aussi les ventes dématérialisées sur console, mais bon, il rentre pas trop dans les détails. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la série a passé les 100 millions d'exemplaires distribués à travers le monde depuis 1996. Donc c'est vraiment un titan pour Capcom. Et on comprend pourquoi les studios se relaient en parallèle pour pouvoir sortir un nouvel épisode quasiment tous les ans.
Enfin, oui, assurer un rythme assez régulier. Et on se demande du coup à quand le remake de Code Veronica du coup, parce que si on regarde la liste, à moins que Capcom ait envie de s'attaquer au zéro, je ne sais pas.
Alors, d'après, tu sais, il y a différentes choses. Il y a eu les fuites, tu sais, quand ils se sont fait pirater. Donc, d'après les documents internes, il y a un remake du 4 qui est en développement. T'as le jeu qui est surnommé Resident Evil Outrage pour l'instant, mais qui est en gros Resident Evil Révélation 3, mais qu'ils n'appelleront peut-être pas Révélation 3 parce qu'apparemment il aura quand même un budget de développement plus important que Révélation 2 et 1. Donc ils veulent le booster un peu en termes de.
Ils veulent pusher les bandes d'arise.
Déjà, on a ces deux jeux-là qui sont en développement. D'après les documents, il n'y a pas de remake de Code Veronica en développement pour l'instant, ce que je trouve ultra dommage parce que s'il y a bien un jeu, un épisode de la série qui mériterait un remake et d'être mis au goût du jour, ça serait Code Veronica.
Et qui est encore très cher au quart des joueurs en plus, ouais. Malgré le temps qui passe, quoi.
En fait, son tort à Code Veronica, principalement, c'est de ne pas être numéroté. Dans l'esprit de Capcom, ça le met un peu à part.
En marge de la série principale, presque.
Mais j'ai lu un livre, un excellent livre, Itchy Tasty, sur les 10 premières années de Resident Evil, qui va soit sortir en français ou soit est déjà sorti, mais enfin ça va être traduit chez Pix & Love. Mais bon, c'est un livre qui a été fait en des suites d'interviews de nombreuses personnalités de Capcom de l'époque. Et chez les créateurs de Code Veronica, il y a un certain regret justement de pas l'avoir numéroté et de lui avoir fait un titre à part entière parce que ça continue de lui jouer des torts aujourd'hui, alors qu'en fait il mérite totalement sa place dans la chronologie principale de la série, aussi bien en termes d'histoire qu'en termes de qualité de gameplay, de mise en scène, etc.
Ouais, on se rappelle que la fenêtre de sortie qui était quand même très proche de Nemesis sur PlayStation avait sans doute conduit Capcom à trouver une troisième voie justement pour Code Veronica.
Mais cette période-là, c'est un gros boxon en termes de numérotation des épisodes. Il y a plein de jeux qui ont vu leur titre changer, qui ont vu leur numérotation bouleversée. Des épisodes qui étaient numérotés ne le sont plus. D'autres qui avaient un numéro ont vu ce numéro changer. Enfin bref, c'est un sacré boxon. Je vous invite, si vous aimez la série, je vous invite vraiment à lire ce livre parce que c'est très intéressant. Mais il n'empêche que, oui, on espère tous que Code Veronica aura droit à un remake et à un retour sur le devant de la scène un jour parce que il le mérite et je pense que c'est le jeu qui a peut-être de la série qui a été le moins retouché au fil du temps, peut-être avec Resident Evil 0, mais 0 en termes d'image, il est quand même pas au même cran que Code Vero.
Et à raison.
Et donc voilà. Et pour revenir au sujet de base, parce que là on tergiverse un peu. Autre indicateur de la très bonne santé de Village pour son lancement, c'est la version PC qui a battu des records sur Steam en termes de fréquentation simultanée pour un épisode de la série. Là, on a eu un pic à plus de 100 000 joueurs connectés en même temps à Village. Et le précédent détenteur de ce record pour la série, c'était RE2, donc le remake, qui lui n'était qu'à, entre guillemets, 74 227 joueurs simultanés. Donc non seulement Village bat leur corps, mais il le bat bien. Donc, je pense que c'est un indicateur intéressant aussi de la popularité dont jouit le titre dès sa sortie. À voir maintenant si cette popularité va réussir à se maintenir à ce niveau-là sur la durée, ou si ça va retomber comme ça avait pu retomber pour RE6, ce dont je doute, parce que quand même les qualités de Village sont bien là, et c'est un jeu qui mérite qu'on s'y intéresse. Donc, à voir, mais en attendant, c'est assez rigolo pour moi, par exemple, ou toi, Thomas, je pense que c'est un peu pareil, qui avons pu faire le jeu en avance. Et pendant que nous, on était en train de jouer au jeu, on voyait que tout le public continuait de fantasmer sur Lady Dimitrescu, comme il l'appelle dans le jeu. Sachant tout ce qu'il y a après dans le jeu, y compris des passages qui sont certainement bien plus marquants que le passage du château. Donc c'est marrant de voir la narration publique varier et switcher progressivement sur d'autres séquences du jeu. En tout cas, c'est rigolo à suivre. En tout cas, belle réussite d'emblée pour Resident Evil Village, méritée à mon humble avis. Et donc, je serais curieux de voir maintenant ce que ça va donner sur le long terme.
Bon, on a tous plutôt apprécié. Hein. Et toi, Johnny, tu vas le découvrir d'ailleurs dans quelques jours.
Moi, j'ai relancé ce week-end, pas le 8. Attends, c'est 8. Hein. Du coup,
ouais, c'est 8.
Donc j'ai pas relancé le 8, j'ai relancé le 4 moi ce week-end. Et on fait avec ce qu'on a. Hein.
Je l'ai commandé, mec. Je vais me le refaire parce que ça fait une éternité que j'ai pas retouché et le fait de faire village m'a donné envie de replonger dans le 4.
Moi je dis rien, j'ai refait Rebirth une semaine avant de faire le village. Donc.
Il y en a un dont on n'a pas parlé là dans cette petite chronique là, c'est le Resident Evil 4 VR aussi qui va arriver. Ça, j'attends avec beaucoup d'impatience.
C'est vrai. N'ayant pas de casque, je ne vais pas pouvoir en profiter, mais c'est vrai que pour le redécouvrir, je pense que ça va être idéal.
Ça va être cheap à mort, je pense. Ça va être gerbatoire au possible, mais ce sera un vrai petit plaisir, je pense.
Ah, je ne sais pas, parce que sur le mode VR de Resident Evil 7, Capcom a bien fait les choses. Donc je pars pas défaitiste. Et en plus, on sait qu'au fil du temps, l'épisode qui a été un peu... retouché en termes de gameplay, c'est RE4, par exemple, qui avait eu droit à une version Wii qui était très réussie, avec un gameplay qui fonctionnait très bien à la Wiimote, au combo Wiimote Stick.
Qui avait été sur Play après avec la...
PS Move. Donc je me dis que c'est un titre qui a été plutôt soigné en termes de refonte au fil du temps. En plus de ça, on sait qu'RE7 en VR, ça marchait bien. Donc, moi, je serais vraiment curieux d'essayer. Mais là encore, je ne suis pas équipé. J'ai pas
et
le matos.
Tu peux même le proposer comme une méthode immersive d'apprentissage de l'espagnol. En plus, il y a plein de vertus à
RE4.
Voilà, on parle tous un peu espagnol grâce à RE4.
Petite anecdote sur RE4. J'ai la démo de RE4, la démo GameCube sur un tout petit disque japonais. Donc, c'est un disque de démo qui était dans le magazine Famitsu. Et bah, sachez que les lignes de dialogue entre la démo et le jeu final, ce n'est pas les mêmes. Voilà.
Et on ne surfait pas.
Ils font la stéré, tous ces trucs-là, ils ne sont pas dans la démo.
Et bah, puisqu'on raconte tous notre vie, moi j'avais un camarade de classe qui était d'origine espagnole et donc qui était totalement bilingue, d'Amérique du Sud, hein, de l'espagnol d'Espagne, et qui me disait que les formulations employées par les ganados, ce n'était pas de l'espagnol naturel pour un espagnol de là-bas, c'était plus de... des formulations un peu bizarres et plus de l'espagnol du Mexique et d'Amérique du Sud, en fait.
Il y a peut-être un truc qui se trame là-dessous. Peut-être qu'on apprendra ce qui s'est passé dans RE9.
Des extraterrestres.
Mais pour le coup, RE9, il a beaucoup de questions de mystères à élucider parce que là, on a des réponses dans RE8. Mais il y a quand même beaucoup... Non, j'explique rien. On a beaucoup de réponses dans RE8, mais il y a aussi pas mal de questions qui se posent en plus, ce qui rajoute un attrait supplémentaire au jeu, selon moi. Et donc, pour revenir sur RE4, je me dis que peut-être qu'avec un peu de chance, ils le sortiront aussi sur PSVR 2. Peut-être que la technologie s'y prêtera. Parce que maintenant, s'il y a une version VR qui existe et qu'on sait que Capcom, les portages, ça le connaît, donc pourquoi pas.
Et justement, en parlant de PSVR 2, celui qui n'est évidemment pas encore disponible, pour pouvoir en profiter, il faudra peut-être déjà avoir une PlayStation 5. Et ça n'est a priori pas évident, puisque là, on va basculer dans la partie fail de ce podcast. Cette phrase qui nous en parlait, en tout cas, ça vient des hautes instances de chez Sony. C'est Hiroki Totoki, le directeur financier du board de Sony Financial Holdings, qui a déclaré publiquement il n'y a pas longtemps que la demande était telle et la pénurie de composants suffisamment présente pour que Sony imagine que la pénurie de PS5 se poursuive au moins jusqu'en 2022. En tout cas, c'est la dernière info qu'on a eue. Vous savez que la console a quand même fait un démarrage assez sympathique. Hein. Ils en sont à 7,8 millions d'unités expédiées pour l'instant.
Démarrage record.
Et le problème, c'est que les composants se faisant toujours aussi rares, tout le monde veut mettre la main dessus, hein, que ce soit pour produire des consoles, des cartes graphiques, tout un tas de choses, ça devient quand même assez compliqué. Du coup, Sony prépare déjà un petit peu l'esprit des joueurs, mais pour ça, il y aura peut-être une alternative, puisque tu nous en as parlé, Romain, aussi, il y a quelques jours, il se pourrait que l'intérieur de la PS5 subisse à terme des modifications, en tout cas si cette pénurie de composants venait à se poursuivre un petit peu trop longtemps, Sony envisage de pouvoir changer son fusil d'épaule. Alors tout ça est évidemment à prendre un petit peu avec des pincettes puisque c'est le journal taïwanais DigiTimes qui nous en parlait. Leurs informations ne sont pas toujours d'une fiabilité à toute épreuve, mais en tout cas, ça avait déjà été évoqué quelques jours auparavant par Sony directement. Il se pourrait que des composants internes à la console soient remplacés par d'autres pour réussir à tenir la cadence, continuer à produire des unités et à répondre tant bien que mal à la demande, puisque, on le rappelle et vous êtes sans doute bien informés, chers lecteurs, la console pour l'instant est tout simplement introuvable en rayon. Il faut continuer à être un petit peu au taquet, à suivre les réassorts des différents sites marchands pour se la procurer. Et donc, on pourrait, eh bien, devant justement cette difficulté à la faire sortir en nombre suffisant, eh bien, être face à une première, finalement, quelque part dans l'industrie, en tout cas une première de cette manière-là, puisque Sony pourrait décider, sans changer le design, l'aspect extérieur de sa console, modifier un tout petit peu l'architecture pour réussir à pallier justement à cette difficulté de matière première. Donc, à voir évidemment comment ça va se passer, à voir aussi si la demande va continuer d'être aussi soutenue jusqu'en 2022. En tout cas, ça nous laisse évidemment espérer plein de surprises, plein de choses à observer pour nous autres petits joueurs et observateurs de l'industrie. Et ça prouve évidemment, Covid oblige, que le jeu vidéo jouit toujours d'une popularité record qui n'en finit plus de faire des émules.
Ouais. Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Moi. Bon, après, c'est le fait de travailler sur Internet et d'avoir l'œil sur Twitter toute la journée.
En permanence, là, ouais, on peut
beaucoup
être
de chance
beaucoup plus réactif.
De réussir à avoir déjà une PS5 et une Series X. Je ne pensais pas qu'en mai 2021, on aurait encore tant de mal à se procurer les deux consoles. C'est assez dingue. Et là, j'ai vu qu'il y a un groupe de spéculateurs américains qui se targuaient d'avoir déjà revendu, donc au marché noir, 130 000 PS5. Donc, c'est juste pour un seul groupe de spéculateurs. Je trouve que ça prend des proportions assez incroyables. Je vois qu'au Japon, les différents sites d'information sur le jeu vidéo continuent de relayer régulièrement, tu sais, les systèmes de loterie mis en place par les différents revendeurs pour pouvoir acheter une PS5. C'est assez...
Pour avoir le droit d'aller l'acheter.
Et c'est assez dingue parce que si tu pourrais te dire que il y a, comment dire, qu'il y a genre très peu de consoles sur le marché, mais finalement, sachant que les ventes sont record pour la marque PlayStation, ça veut dire que bon, ils en ont quand même mis sur le marché un nombre assez conséquent. C'est juste que la popularité de la machine est immense et qu'elle ne faiblit pas malgré les mois qui passent, et donc il continue d'y avoir une demande assez dingue. Donc en fait, c'est à moitié pour Sony, c'est à moitié un cercle vicieux et à moitié un cercle vertueux, parce que c'est un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles.
Il loupe quand même des ventes finalement, puisque les gens veulent s'en procurer et eux n'arrivent pas à les proposer. Donc il y a quand même un loupé, il y a une inadéquation entre ce qu'ils arrivent à sortir et ce que les gens veulent acheter. Ouais.
Ouais,
mais après, c'est pareil en face, tu le disais, pour la Series X.
Ouais, et c'est pareil pour plus ou moins l'industrie de l'électronique et des produits high-tech d'une manière générale, puisque les pénuries de composants et en semi-conducteurs, elles sont subies quasiment par toutes les marques. Quoi. C'est assez incroyable. Là, c'est vraiment une course, même certains pays. On sait que les États-Unis, Joe Biden en a parlé, on sait que l'Union européenne en a parlé aussi. Là, ils essayent tous de rapatrier la production de semi-conducteurs et pour limiter leur indépendance vis-à-vis de la Chine ou des choses comme ça. En fait, nous, quand on voit ça de notre simple regard de joueur, on se concentre juste sur les pénuries de consoles, mais en fait, l'impact et les conséquences de cette situation, elles sont immenses et elles sont totalement mondiales.
Et ça touche évidemment aussi les cartes graphiques, on en parlait avec Poufy ces derniers jours. Bref, on verra bien comment les différents constructeurs réussiront ou pas à pallier à cette pénurie. En attendant, on va passer à quelque chose de plus réjouissant, d'un peu plus sûr, puisque c'est l'heure du premier thème de la semaine. Et le premier thème, il est pour toi, mon cher Johnny, puisque tu as pu rejouer à Scarlet Nexus.
Jouer.
Ah, la dernière fois, tu l'avais vu. Là, tu l'as eu manette en main pour la première fois.
Donc, le jeu avait été annoncé à je ne sais plus quelle conférence l'année dernière, en 2020. On avait pu le voir cet été. Alors, cet été, c'était assez particulier. C'était une petite keynote organisée par Bandai Namco. Donc, on avait vu une séquence de gameplay d'une demi-heure et on avait eu droit à une interview de trois développeurs. Donc, un des gars des artistes, un technicien, je ne sais plus qui était le troisième, le producteur, je crois, le réal, du coup. Voilà. Et là, du coup, là, on a pu jouer. Oh, très bien. Donc, c'était une démo qui était un peu particulière. Donc, on a pu avoir accès à une démo jouable, dans des conditions un peu particulières, puisque ça s'est fait sur Shadow. Shadow, vous savez, c'est cette plateforme qui permet de streamer un PC à distance. Du coup, j'avais la connexion avec la fibre à la maison, le petit laptop, et j'ai pu poser mes mains sur le jeu et faire tout le début du jeu. Donc, les 2-3 premières heures, en gros. Les premières quêtes principales, le tutoriel et quelques quêtes secondaires. Donc, ça a permis de se faire une petite idée déjà un petit peu. Alors déjà, ce que je peux vous dire au niveau de l'univers qui a été créé, donc c'est un univers manga générique, plutôt banal. Ça ressemble beaucoup à ce que vous avez pu voir dans, par exemple, God Eater. On dirait même que c'est les mêmes artistes qui ont créé les personnages des deux jeux, tellement ça se ressemble un peu. Mais bon, ça, ça, on aime ou on n'aime pas. Il y a un petit côté cel-shadé qui n'est pas dégueu, qui donne une petite patte à l'ensemble.
Pour prendre leur défense, on dirait qu'il y a quand même un petit travail sur les couleurs, qu'il y a un environnement un peu travaillé à ce niveau-là.
Oui, oui. Ça, j'en parlerai après. C'est surtout sur les décors, moi, je trouve. Après, en termes de scénario, bon, ça ne devrait pas être oufissime non plus. Ça va être une histoire qui va suivre. En fait, ça prend place dans un univers dystopique du futur, un peu. Donc, je vous parlais des décors. Donc, c'est une ville qui ressemblerait à un petit peu ce que vous pourriez avoir dans Ghost in the Shell, croisé avec Ready Player One, mais au Japon. Voilà. Donc, ça donne un ensemble futuriste un peu déglingos, mais qui a une espèce d'attrait. Il y a des néons de tous les côtés, il y a de la verdure, il y a des bâtiments aux formes improbables. C'est assez stylé en termes d'ambiance. Voilà. Après, est-ce que le scénario tient dans la route ? Ça, encore une fois, on n'en a pas vu assez pour le dire. Dans Scarlet Nexus, vous aurez le choix entre deux héros, un homme, une femme. Alors, le héros, c'est un jeune homme, jeune fils de bonne famille qui veut s'engager à l'armée avec tous les problèmes que cela va suscité dans sa famille, forcément. Et son alter ego féminin, c'est, on ne me rappelle plus son prénom, elle, c'est plutôt le rôle de l'orpheline au destin tragique. Voilà. Et donc, on va jouer à un de ces deux personnages qui rentre dans une espèce d'unité d'élite de chasse de monstres, parce que le monde dans lequel ce monde-là, qui a de super beaux décors, malheureusement, il est envahi par des monstres à droite à gauche.
Et alors, tu as réussi à cocher, je crois, toutes les cases de la typique, là. Ouais. Je crois qu'on a le bingo parfait.
Alors, les monstres, ils sont vraiment assez stylés et plutôt originaux, en fait. Ils ont fait appel à un artiste pour la conception du design des monstres. Alors, j'ai plus le nom de l'artiste en tête. Vous pourrez aller lire dans ma preview qui était sortie au mois d'août, l'été dernier. Un artiste qui avait aucun lien avec le jeu vidéo avant de participer au projet Scarlet Nexus. Et il faut dire que ses créations, elles sont vraiment très, très originales. On a des monstres qui seraient dignes d'un Silent Hill, en fait, en vrai. Avec trois composantes principales qui vont être mises en œuvre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'homme-ours-porc, mi-homme, mi-ours, mi-porc. Là, on va avoir des bestioles qui vont être mi-animal, mi-végétal, mi-squelette, mi-sexy, mi-tout ce que tu veux, en fait. Voilà. Va vraiment y avoir une espèce de pot-pourri d'influence. On se croirait presque devant des peintures, en fait, devant les monstres. Voilà.
Ah oui, donc de ce point de vue-là, ça t'a plutôt bluffé.
Ouais, j'ai été vraiment plutôt bluffé par le design des monstres et le design de l'univers.
Alors, pour rendre hommage justement
au design, le scénario, ça on verra.
À l'artiste en question, c'était Kota Ochiai que tu citais effectivement dans ta preview de cet été.
Ok, voilà. Donc en termes d'univers et de design, il y a des bons points, d'autres qui sont un peu moins bien. Il faudra attendre d'avoir le jeu final pour se prononcer là-dessus. Tiens, je vais un petit mot sur la narration. La narration, elle va beaucoup se faire via du visual novel. Donc, c'est des panneaux qui sont assez stylés, qui sont plutôt animés, pour le coup, même si ça reste de la narration en panneau fixe. Quelques petites cinématiques 3D par-ci, par-là.
Alors, c'est quoi c'est des dialogues qui viennent en surimpression, comme un Tales of, pendant que tu te balades ?
Il va y avoir de ça aussi, voilà. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai eu pas mal de pour le scénario, il n'a pas beaucoup avancé, hein, forcément, j'ai fait que le début du jeu. J'ai eu, par contre, beaucoup de droits aux moments, vous savez, les moments comiques qu'on retrouve dans ces jeux-là. Donc, les trucs sur lesquels, généralement, tu appuies sur croix, vite, 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 parce que tu as le suivant. Voilà. Qui sont reconnaissables avec une espèce de petite musique comique, voilà, qui vient se mettre au fond. Donc, en termes d'univers de scénario, il devrait y en avoir pour tout le monde et pour tous les goûts. Maintenant, il faudra confirmer ça avec le jeu complet. Par contre, il y a un truc sur lequel on a été un peu plus saucé là d'entrée de jeu, c'est sur la jouabilité. La jouabilité, elle avait fait un peu flipper quand on avait vu le jeu en vidéo, parce que en vidéo, ça avait l'air mou, ça avait l'air pas vraiment top. Ma preview, là, c'était la preview du mois d'août, je la concluais en disant franchement, je suis pas très très chaud. Si quelqu'un veut faire le test, allez-y les gars. Voilà. Et au final, là, après y avoir joué, je suis déjà un peu plus saucé par le jeu. Alors, le gameplay, il devrait être assez original du côté action, en fait. Donc, on a un personnage qui va pouvoir loquer les ennemis, donc les ennemis dont je vous parlais tout à l'heure avec leur design improbable. Et il va y avoir une première attaque de base, deux attaques de base, des attaques au corps à corps, faibles et moyens. Et en fait, le jeu, là où il devient original, c'est que quand tu vas attaquer au corps à corps, tu vas aussi mélanger tes coups avec des pouvoirs psychique, c'est-à-dire que pendant que tu tapes l'ennemi, tu vas, en appuyant sur la gâchette, préparer le coup psychokinétique qui va projeter une bagnole dans la tronche de ton ennemi. Voilà. Et ça, il faut, pendant que tu es en train de taper et de mettre tes coups au corps à corps, il faut que tu prévoies à l'avance appuyer sur le bouton pour que ça lâche le pouvoir magique.
Il y a un petit côté stratégique à avoir constamment en tête.
Et même, tous ces pouvoirs-là, là, les pouvoirs télékinésiques, etc., ils sont à base de jauges. Du coup, il faut bien surveiller l'état des jauges, etc. Et le but, c'est d'arriver à suffisamment surveiller tes jauges et à suffisamment surveiller ton rythme, et c'est pas innocent le mot que j'utilise, ton rythme pour pouvoir frapper les ennemis sans discontinuer, en fait. Arriver à alterner pouvoir magique, pouvoir attaque au corps à corps, pouvoir magique, attaque au corps à corps, pour ne pas laisser de répit aux ennemis. Et j'ai utilisé le mot rythme pas par hasard, comme je vous le disais, puisque bah, ça va ressembler un petit peu à ce que tu pourras avoir dans un jeu de rythme, justement, où bah, va falloir frapper les touches dans le bon ordre et avec le bon rythme, tout simplement. Voilà.
En termes d'interface, il n'y a pas trop de choses, justement, à l'écran. T'arrives à avoir tout ça en tête sans que ça déborde de partout.
Ouais, les pouvoirs psychokinétiques qui s'affichent avec une icône ronde un peu au milieu de l'écran, et c'est assez facile à voir. Et puis, tu apprends assez vite le pas de te dire « Ah oui, en effet, j'ai fini mon attaque au corps à corps. L'attaque où tu projettes une voiture, elle arrive qu'après. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça ?» Et là, tu commences déjà à améliorer un petit peu tes combos. Donc voilà, il va y avoir un espèce de côté un peu combo, un peu arcade, pas dégueu, que j'ai trouvé assez stylé. Et en plus, dans une jouabilité assez dynamique. J'ai trouvé le jeu assez rapide, plutôt intéressant à jouer. Bon, maintenant, j'y ai joué 2 heures. C'est pas suffisant pour juger sur la durée. Surtout qu'en plus, tu as des compagnons qui viennent t'accompagner. Alors, l'aspect RPG, il a l'air d'être assez basique. Je me suis baladé dans les menus. Donc, tu as un arbre de compétences, mais qui est pas plus important que celui de Tomb Raider, j'ai l'impression. Voilà. Tu peux équiper des accessoires, des armes, des trucs comme ça. Mais là, pareil, encore une fois, ça a l'air très basique. L'aspect RPG, j'ai l'impression qu'il se fait sur un autre aspect qui va être plutôt sympa, c'est sur tes compagnons qui vont t'accompagner, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir une tripotée de personnages non jouables qui vont pouvoir accompagner le héros dans son aventure. Et en fait, c'est eux qui vont t'apporter des pouvoirs. Par exemple, moi, j'ai eu un de mes compagnons qui m'a apporté un pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir psychokinétique qui permet de jeter des trucs en mode comme l'apprenti dans le pouvoir de la force. C'était sur R2. Ben, en étant accompagné par un autre personnage avec le bouton L2, je pouvais projeter un deuxième projectile. Voilà. Donc, une espèce de mécanique en plus à apprendre. Après, tes compagnons, ils devraient pouvoir t'apporter des buffs, du soin. Enfin, les trucs classiques de RPG, quoi. Voilà.
Tu vas les cumuler presque comme des accessoires dans un Castlevania à la sauce RPG. En fait, c'est à toi de faire un truc sur mesure.
C'est un peu tôt pour le dire, mais oui, je pense que tu vas choisir tes compagnons en fonction de ton style de jeu. J'ai pas assez joué. Et puis là, pour l'instant, les compagnons, bon, on me les a un peu imposés, hein, dans ma démo. Donc, j'ai fait avec ceux qu'on me donnait dans les missions secondaires et les missions principales. Et puis pareil, j'ai pas non plus saisi toutes les subtilités du gameplay, de la jouabilité, des buffs, des debuffs, etc. Ça demandera un peu plus de temps de jeu sur une version finale. Mais pour l'instant, là-dessus, donc, le RPG, bon, bof, mais du coup, l'histoire avec les compagnons qui est, tiens, en plus doublée d'un système, la persona avec des social links. C'est-à-dire que tes compagnons, tu vas les faire évoluer, leur faire gagner du pouvoir, comment? Pas en se battant, mais en allant discuter avec eux entre les missions. Voilà, donc ça, c'est un petit aspect qui plaira probablement à certains.
À la fin, Persona, comme tu disais, moi, je pense même à FF Type 0 qui exploitait un petit peu les mêmes mécaniques. Voilà. Du coup, tu vas avoir tes préférés, les vrais potes ou les meufs que tu as envie peut-être de pécho.
Exactement, et puis ceux que tu choisiras, pas par intérêt scénaristique, mais par intérêt de jouabilité. Ah, lui, j'aime bien son pouvoir, lui, je vais le garder dans mon équipe. Voilà, et tiens, je vais le faire s'améliorer, tant qu'à faire. Un dernier aspect dont je ne vous ai pas parlé, c'est peut-être les niveaux. Donc, c'est du dungeon crawler, un peu. Donc, on a un hub central, qui est une ville, encore une fois, très, très animée. Ça, on dirait un quartier de Tokyo. Voilà, un mélange entre Akihabara et je ne sais pas trop quoi. Enfin, c'est super stylé, vraiment, en termes de design.
Mais dystopique.
Oui, dystopique, oui. Alors, c'est un univers dystopique un peu particulier parce que c'est la merde, mais ça va, les gens arrivent à vivre quand même correctement. Grâce, justement, à l'unité d'intervention spéciale dont tu fais partie. C'est un peu le pitch de départ, ça. Bon, j'imagine qu'il va se passer des choses et que ça va dégénérer. Donc, ouais, en termes de... Voilà, donc on a ce hub central, l'espèce de ville de départ. Et à partir d'une carte du monde, on va choisir donc d'aller visiter des donjons. Moi, sur le début du jeu, en ayant fait 3 quêtes principales et 3 quêtes secondaires, j'ai eu l'occasion malheureusement de déjà visiter 2 fois le même lieu. Les niveaux, c'est un peu tôt pour le dire, mais ils ont l'air plutôt linéaires et assez labyrinthiques. Notamment, il y en avait un où il y avait plusieurs étages, il fallait passer d'un étage à l'autre. Moi, je me suis perdu et heureusement qu'il y avait une carte. Voilà. m'a permis de me retrouver, parce que sinon, je me serais...
Sinon, tu serais encore.
J'y serais encore. Voilà, j'aurais abandonné. Voilà, voilà. Donc, Scarlet Nexus, franchement, après y avoir joué, je suis déjà plus emballé qu'après l'avoir vu simplement. Du coup, bah, je suis un peu plus hypé pour la sortie de cet été. Et là, du coup, je ne proposerai pas le test à quelqu'un d'autre de la rédaction. C'est moi qui le ferai, celui-là. Voilà.
Bon. La réserve que tu as pu avoir, le côté péchu des combats et les social links, ça,
ouais, voilà, le
ça va lui vraiment permettre d'exister, a priori.
Exactement. Le design qui est certes générique, mais qui a ses qualités et qui devrait plaire, je pense, à pas mal de monde. Comme tu l'as dit, les social links côté Persona, ça, c'est un truc qui plaît aussi. Mais moi, voilà, ce qui m'a séduit là dans cette preview par rapport à la précédente, c'est vraiment le côté action, jouabilité, qui m'a surpris agréablement. Même si j'y ai pas encore assez joué, comme je dis, je jouais 3 heures, ça suffit pas pour donner un avis définitif. J'espère pouvoir m'y replonger bientôt. Il y a un jeu que j'ai pas cité, que je cite dans la preview. Ça me fait penser un petit peu sur un premier feeling au genre de combat qu'on pourrait avoir dans Nier Automata. Vous savez, où il faut gérer à la fois et le tir, et les combos corps à corps, et le robot. Enfin, tous tes doigts sont mis à contribution. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant.
C'est là où
la réponse,
tu dis que,
fin juin.
C'est là où tu dis qu'une preview jouée, ça peut quand même avoir son utilité, parce que les vidéos dévoilées de Scarlet Nexus jusqu'à présent, c'était quand même pas super engageant. D'ailleurs, on vous passera les détails, mais à la rédaction, il a beaucoup fait rire, ce jeu, quand même.
Et la preuve, Johnny, en le voyant simplement sans l'avoir manette en main, était pas plus emballé que ça.
Ah non, j'étais pas plus emballé que ça. Et moi, je suis pas souvent à la rédaction. Et du coup, ces discussions-là, je les ai pas eues avec vous. Et ouais, non, tout seul de mon côté, j'étais pas très saucé. Voilà.
Non, il faut dire que Johnny passe quand il y a des colis qui s'amoncellent sur le bureau d'en face. Et c'est à partir d'un certain seuil, là, tu commences à le voir arriver de temps à autre.
La rédaction, c'est une boîte postale hein, pour.
Exactement.
Pour Johnny. C'est une domiciliation, donc.
Ah, vous savez, j'ai pas trop le choix, j'ai pas de boîte aux lettres à la maison. Donc, vous êtes un peu ma boîte aux lettres, merci.
Je crois que c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait.
Tu es ma boîte aux lettres.
Attention, donc, je disais, vous n'avez pas l'esprit mal placé, parce que comme une lettre à la poste, là, c'est bon.
Oui, je pensais comme papa dans maman, à la limite, là, on aurait pu voir autre chose. Mais tu le disais, oui, réponse assez bientôt, puisque le jeu sort le 25 juin.
Ça sort fin juin, voilà. Si c'est pas décalé encore d'ici là, hein, parce que je crois
qu'il y a déjà
quelques reports. Ça devrait sortir sur à peu près tous les supports, oui.
Bah, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Moi, j'ai tout. Et puis, même si on ne veut pas y jouer, c'est a priori une licence que Bandai Namco veut décliner à la sauce cross média. On sait qu'il y a déjà un animé. D'ailleurs, l'intro du jeu profite de ce look animé. Donc, vous allez en bouffer d'une manière ou d'une autre du Scarlet Nexus.
Tout à fait. Voilà. Bon, écoutez, on est déjà un peu plus ambiancé que cet été. Donc, on verra.
Voilà. Rester connecté.
Tout à fait. En parlant de rester connecté, moi, ça ne va pas être le cas, malheureusement.
Tout à fait.
Très chers jeunes gens. Je vais laisser Romain Mahut faire une vanne sur moi dès que je vais raccrocher.
c'est très mal nous connaître. Non, on les fait généralement quand on n'est pas enregistré, tu sais, c'est comme ça que ça marche. Les meilleurs restent entre nous.
Tout à fait.
On te remercie en tout cas, Johnny. On te fait de gros bisous.
Bonne suite de podcast et à très bientôt.
Et à très vite,
évidemment.
Ciao. Pour le test. Bise.
Salut.
Et on parlait effectivement de la différence qui existait, mon cher Romain, entre les démos jouables et les vidéos de présentation. Eh bien, ça tombe bien, puisque je vais vous parler un petit peu de Ratchet & Clank Rift Apart, qu'on a pu voir. Et bah, ça fait toute la différence, puisque pour l'instant, on ne l'a pas eu entre les mains. Sony nous a invités à une petite session d'à peu près 45 minutes où on a vu deux phases de gameplay différentes et où on a pu discuter après avec les artistes, réalisateurs, level designers de ce nouveau jeu d'Insomniac qui, bah, pour l'instant, est porté par les bonnes ventes de Spider-Man. Ils ont pu apprivoiser un petit peu la console et se faire la main sur la DualSense. Et du coup, on a vu une nouvelle partie du jeu. Alors, ce qui est très étonnant, en fait, c'est qu'on a commencé par découvrir, non pas ce qui est l'intro, mais à mon avis, une séquence qui arrive quand même assez rapidement dans l'intrigue, puisqu'on retrouve nos deux compagnons qui, en fait, prennent la suite des événements de Into the Nexus, Mais quelques années se sont passées entre les deux. Donc, ça permet au personnage, et surtout à Ratchet, de gagner un tout petit peu en maturité. En fait, Ratchet est comme nous. Hein. Il a grandi, il a pris un petit peu de plomb dans la cervelle. Et du coup, on le retrouve un petit peu moins impulsif qu'avant. Quand même un petit peu, rassurez-vous, hein, ça reste un jeu d'action plateforme. Et nos deux héros sont célébrés. Il y a une espèce de parade à l'américaine, diraient certains, à façon 5e avenue, avec ses ballons géants. Et il manque juste Macy's sur le côté pour que l'illusion soit totale. Sauf que, évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Le docteur Nefarious arrive et explique qu'a priori, la tête de Ratchet a été mise à prix. On ne sait pas trop par qui, on ne sait pas trop pourquoi. Mais du coup, l'action s'emballe. Il accroche un des chars volants sur lesquels on était. Et du coup, nous voilà partis à toute berzingue dans les rues de la ville. Et c'est là qu'en fait commence une espèce de phase de tuto. Et oui, on a vu le tuto du jeu, ce qui est quand même assez étonnant, je trouve, pour une session preview, parce qu'on ne va pas se mentir, ce n'est quand même pas les phases les plus passionnantes. En tout cas, quand on n'a pas la manette entre les mains, il y a assez peu d'intérêt, finalement, à voir le tutoriel d'un titre.
Ah, tu sais, ça peut servir quand tu vas à une presse de jeu, généralement, avant que tu puisses commencer à jouer. Ils mettent tout le monde dans une salle et on a droit à une sorte de PowerPoint, tu sais, avec les différents...
Les slides.
Voilà, les slides avec les différentes nouveautés de gameplay, les nouvelles mécaniques. Donc là, sachant que c'était une présentation à distance, c'est peut-être le moyen de faire l'équivalent de ces slides, tu vois, justement, de montrer des points essentiels de gameplay, peut-être de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles techniques, etc., avant de montrer le jeu en lui-même.
Mais je sais pas. Hein, elles sont arrivées plutôt après, en fait. Moi, je pense que la phase de tuto, à mon avis, elle devait être jouable. Dans un monde ordinaire, on aurait pu l'essayer par nous-mêmes. Parce que les gunfights était encore pas très péchu, un petit peu mou, et c'est normal, c'est vraiment les premiers échanges de tirs. Je pense que c'était aussi pour montrer que l'action est super fluide, parce que, comme je le disais, on est entraîné justement par Nefarious dans les rues de la ville à toute berzingue. Donc ça permet de voir que le décor défile justement à toute vitesse, que les ennemis arrivent d'un petit peu partout, et que tout tient la route. Alors il y aura évidemment deux modes de jeu, 30 et 60 FPS, à vous de voir ce qui vous branche le plus, mais l'action était vraiment très fluide. Ce qui était intéressant, c'est la partie qui est arrivée après, qui était quand même beaucoup plus conséquente, où là on était dans la peau de Rivette. Donc cette femelle Lombax qu'on a pu découvrir en même temps que le jeu, d'ailleurs au début, c'était un petit peu la surprise. Et justement, le réalisateur a pu nous permettre de cerner un tout petit peu le personnage. Rivette, c'est donc une femelle Lombax qui a grandi toute seule dans son coin, donc c'est a priori un personnage qui va être très débrouillard, très indépendant, mais avec le cœur sous la main. Donc ça va changer en termes d'interaction, puisque la séquence de gameplay qui a été dévoilée, elle était en train de porter Clank dans son dos. Donc évidemment, il a été séparé, on avait déjà pu l'apercevoir dans les premiers trailers du jeu. Là, elle se retrouve avec lui, et du coup, les échanges verbaux sont un petit peu différents. On est moins dans le cynisme, moins ce décalage anglais-britannique et américain qui fait que la série fonctionne bien et est ponctuée de tout un tas de touches d'humour. Et on la retrouve sur une planète que les joueurs connaissent bien. C'est les aléas du direct, hein, voilà, les appels incessants à la rédaction, ça suffit, merci. Donc oui, on se retrouve sur une planète que les joueurs connaissent déjà bien, puisque c'est Torren 4 qu'on avait déjà pu explorer, donc une planète désertique, et évidemment c'était l'occasion de mettre en avant la plastique du jeu, mais aussi la chromie finalement de l'environnement, parce que qui dit désert dit des teintes plutôt jaunes, ocre, un peu marron. Non seulement c'est joli, évidemment, il y a tout un travail sur les textures, que ce soit la pierre ou même tout un tas de petits détails. C'est évidemment super joli, la gestion des fourrures, des poils de nos personnages, l'aspect métallique de Clank, il y a évidemment beaucoup de travail. Mais ce qui ressort aussi, c'est que le jeu garde beaucoup de lisibilité, même quand les combats commencent à s'intensifier un petit peu, parce qu'on se retrouve sur cette planète, on a un objectif, retrouver un personnage précis de Fixer, un espèce de robot géant qui va nous permettre de réparer quelque chose et ensuite de repartir à l'aventure. Et évidemment, des ennemis sortent un petit peu de partout, nous attaquent, et on voit qu'il y a eu quand même un gros travail. On garde ce côté flashy des couleurs qui caractérise la série des Ratchet, où on a quand même quelque chose d'assez coloré, d'assez saturé, d'assez généreux quelque part en termes de couleurs. Et du coup, même avec beaucoup d'ennemis, même avec des échanges assez nourris, on garde constamment une lisibilité en fait, dans l'action. On voit très bien ce qu'on peut faire, les tirs ennemis, de quel côté ils arrivent, ce qui se passe. Et pour le coup, ça n'est qu'une vidéo de gameplay, mais ça permettait de voir quand même des combats assez péchus, assez bien fichus, et surtout de voir un petit peu la variété des armes, parce que la personne qui jouait, le démoïste, avait quand même tendance à switcher très vite d'une arme à l'autre pour essayer de montrer un petit peu la batterie d'options stratégiques qui s'offrait à nous, faute de pas avoir pu prendre le jeu en main, on a pu voir un petit peu tout ce qui était possible de faire, et il y a plein de choses, alors il y a des armes assez classiques, mais les développeurs ont aussi tenu à poursuivre cette tradition des armes un peu gaguesque, comique, un petit peu folle comme ça. Et on a pu voir qu'il y avait des combinaisons qui a priori marchaient quand même très bien. On a des armes qui vous permettent d'immobiliser un petit peu vos ennemis, qui créent une espèce de zone dans laquelle ils vont se retrouver à votre merci si vous avez visé juste. Et derrière ça, vous allez pouvoir les comboter en fait avec tout un tas de choses. Alors il y a des armes ubuesques comme celle qui balance un espèce de champignon violet qui lui-même après envoie des projectiles sur les ennemis. Voilà, c'est n'importe quoi, mais ça avait l'air de faire son petit effet. Et moi, celle qui m'a marqué, c'est l'arme qui permet de les transformer en espèce de buisson. Et ils sont matérialisés vraiment, voilà, d'un coup, ça devient des buissons avec une forme un petit peu particulière, comme cet art qui consiste justement à découper des formes. Et comme vous avez aussi des scies circulaires, et ben justement, vous pouvez les balancer, les découper comme ça, et ça marche plutôt bien.
Il y a un côté trophée là-dessus.
Ouais, je sais pas ce qu'il en sera, mais tu vois qu'il y a un côté créatif où tu a priori vas pouvoir choisir un petit peu la manière dont tu vas désinguer tes ennemis. Les développeurs ont tenu à nous rassurer en disant que a priori en termes de munitions, on allait pouvoir se lâcher un peu, qu'on pouvait toujours en acheter dans les différents shops qu'on allait pouvoir découvrir tout au long de l'aventure. Et faute d'avoir pu essayer. Visuellement, c'est quand même assez chouette. On sent qu'il y a des possibilités de combo, d'alternance d'une arme à une autre, et tout ça. Avec quand même beaucoup de lisibilité. C'est vraiment, moi, c'est le point que j'ai retenu, c'est que le jeu réussit à être clair, lisible dans ses affrontements, et il y a quand même pas mal d'ennemis à l'écran à chaque fois, et c'est quand même très chouette. On a réussi à conjuguer quelque part une dimension artistique avec de l'action qui marche bien. Et en parlant d'action, il y en a quand même vraiment pas mal, parce que vous avez évidemment ces phases de combat, un petit peu de plateforme, un petit peu d'exploration, forcément toujours limité, parce que c'est du Ratchet & Clank, on est plus sur de l'action. Mais il y a des moments aussi où, d'un coup, on part dans des phases de grind, qui font nécessairement penser à Sonic Adventure, parce qu'on est vraiment sur le même type de mécanique, à sauter d'un rail à l'autre pour éviter des trucs, avec le décor évidemment qui défile, des gens qui nous parlent parfois, des esquives qu'on va pouvoir sortir au bon moment, et même des phases un peu à la Uncharted, où vraiment tout s'écroule, où on a l'impression vraiment d'être dans la peau de Nathan Drake, à se raccrocher à un truc un petit peu au dernier moment. Il n'y a pas de juron, là pour le coup, je vous rassure, c'est quand même tout public. Je voyais que tu allais dire une connerie.
Non, j'allais dire c'est familial, ouais, donc ça correspondait à ce que tu disais.
Ça le reste, et quand même avec des touches d'humour à certains niveaux qui équilibrent un petit peu le tout. Donc on est quand même face à quelque chose de très grand spectacle, de sur a priori vraiment tous les points. Il y en a qui diront forcément que c'est un espèce de Pixar interactif. Je pense qu'on n'en est pas forcément très loin, même si la comparaison ne rend pas forcément justice au fait que ce soit un jeu. C'est vraiment très chouette, très beau, très fluide. Et à côté de ça, les mécaniques de gameplay, cette mécanique de la faille qui a été vachement mise en avant par Insomniac, moi je ne l'ai pas trouvé absolument renversante, parce que les applications en jeu qu'on a pu voir, ça se résume quelque part à se téléporter finalement à un endroit qu'on voit un petit peu au loin. En gros, ça accélère la progression du niveau, comme dans un jeu de réalité virtuelle quelque part, on y est un petit peu habitué. Et même au-delà de ça, on a des zones bonus, parce qu'évidemment, vous pouvez vous écarter du trajet principal, aller faire un petit peu de loot pour acheter tout un tas de trucs derrière. Et il y avait justement une zone optionnelle sur Torrent 4 qui était matérialisée par un portail. En fait, on ouvre le portail, on a la zone derrière, ça remplace une porte. Voilà, c'est vraiment un truc très classique. Je veux dire, en termes de game design, on est face à quelque chose de tout à fait conventionnel. Ça permet juste aux développeurs de véritablement trancher en fait d'une zone à l'autre. On est sur cette planète désertique, la zone bonus à explorer comme elle est située dans une faille, bah, elle nous envoie complètement ailleurs. Une fois qu'on rentre dedans, on a un changement de décor complet. C'est plutôt spatial, avec des planètes au loin. On est sur des teintes qui changent complètement. C'est du noir, du gris et du violet. On est sur vraiment tout autre chose. Mais c'est une zone bonus à explorer. Voilà. Je suis pas sûr que cette mécanique qui a été mise en avant depuis le début soit l'aspect le plus intéressant de Rift Apart. En fait, ça fait partie des petites nouveautés de game design, mais il n'y a vraiment rien de bouleversant pour l'instant. À côté de ça, le jeu a l'air quand même assez complet. D'ailleurs, Insomniac a insisté sur le fait qu'il allait être accessible à tout le monde. On sait que c'est impulsé par Microsoft, mais Sony a récupéré aussi cette volonté de rendre les jeux un petit peu accessibles. On a vu la batterie d'options qui était disponible dans The Last of Us Part 2 notamment. Là, c'est un petit peu pareil. On aura des options pour régler justement les couleurs, rendre la chose encore plus lisible et plus claire pour les gens qui auraient des problèmes en termes de colorimétrie, ce genre de truc. On a évidemment des options de difficulté qui vont pouvoir se moduler. Et même au-delà de ça, un moyen en fait de ralentir le temps, de ralentir l'action et du coup bah, de réussir à exécuter peut-être des gestes un petit peu plus techniques plus facilement. Voilà, sachant que, a priori, ça, tu parlais des trophées tout à l'heure, Romain, les devs nous ont dit à vérifier, mais normalement, ça n'aura pas d'impact sur le fait de débloquer tout un tas de trophées. Donc voilà, on a une expérience qui se veut être une espèce de vitrine technologique très ouverte, très accessible, très grand public. Moi, le seul truc qui m'inquiète, en fait, c'est bah, que derrière, justement, cette débauche d'effets pyrotechniques, on ait un jeu assez conventionnel. Moi, j'espère qu'il y aura quand même un petit peu de contenu. On nous a laissé entendre que, voilà, en termes de narration, de scénario, on allait être dans un truc un petit peu plus mature, à ramener ça à l'échelle de la série, évidemment. Mais on va pas se mentir, c'est quand même très prometteur. On nous a vanté tous les mérites de la DualSense. Ça, c'est pareil. On est obligé pour l'instant de les croire un petit peu sur parole. Le fait de pouvoir, on l'a déjà ressenti un petit peu dans Resident Evil à minima, mais utiliser les gâchettes et leur retour de force pour gérer des tirs principaux, des tirs secondaires. Il y a même une arme qui, justement, pourra garder quelque part le tir chargé en s'arrêtant à mi-parcours, justement avec la gâchette, et éventuellement de le lâcher après ou de charger encore un petit peu plus. Bref, tout un tas d'options, tout un tas d'armes. Le problème, bah, c'est que on n'a pas pu essayer. J'ai pas pu tester l'enchaînement, la facilité avec laquelle on pouvait passer de l'une à l'autre. Pour l'instant, il faudra se contenter malheureusement de ce qu'on a vu. Le jeu sort dans un mois. C'est dommage quand même qu'on n'ait pas pu y jouer, mais du coup, bah, quand on pourra en reparler, ça sera au moment du verdict, du test en bonne et due forme. J'espère que bah, toutes les promesses vont être tenues de bout en bout de la part d'Insomniac qui joue évidemment gros avec cette exclusivité PS5. C'est juste dommage d'avoir dû se contenter d'une vidéo à un mois de sa sortie. Voilà. Mais pour l'instant, il faudra s'en contenter. Vous l'aurez compris, c'est prometteur, c'est très engageant, c'est très joli. On a évidemment hâte de le prendre en main.
Ouais, c'est bizarre de ne proposer qu'une vidéo si proche de la sortie. Après, les Ratchet & Clank, ça a toujours été, enfin, souvent été des vitrines visuelles en fait pour les nouvelles consoles PlayStation et donc là en le montrant uniquement c'est peut-être justement un moyen d'accentuer sur la partie visuelle du jeu. Et c'est marrant les différentes mécaniques dont tu parles, etc. Tout à l'heure je mentionnais les trophées, mais c'est aussi vraiment dans l'air du temps, tu sais, de partager des séquences de gameplay, des screenshots et tout sur les réseaux sociaux. Donc, tous ces petits gimmicks, tous ces petits outils, là, c'est aussi peut-être un moyen d'inciter les gens à tenter des choses un peu marrantes, un peu décalées, un peu spectaculaires pour ensuite partager. Parce que faut pas se leurrer.
Comme les modes photos. Voilà, les modes photos sont là pour ça.
Tous ces outils-là, ce sont des outils. C'est du marketing gratuit, en fait, pour les éditeurs. Donc là, je pense que le jeu va. Surtout qu'il est très beau et donc il va vraiment bien se prêter à ce genre de choses. Ça va être utilisé pour ça aussi.
Donc voilà, réponse le 11 juin pour ceux qui auront réussi, évidemment, à se procurer la console sur laquelle il tourne. Cela va sans dire. Et on termine avec un petit parfum de Japon, mon cher Romain.
Oui.
Tu es dans le bon décor pour nous parler de Lost Judgment, qui a été annoncé il y a quelques jours.
Ouais, alors oui, qui a été annoncé à la surprise totale. On est tombé des nues, hein, n'est-ce pas?
Non, bah, j'ai encore mal au dos, tellement je me suis fait mal en tombant de ma chaise.
Ce que je tiens à saluer, avant de parler du jeu en lui-même, c'est la manière que Sega a eu de faire sa présentation, parce qu'on sait... On est dans un contexte un peu particulier, donc pour le coup ils ont vraiment innové. Pour ceux qui veulent un peu l'envers du décor, nous on a été contactés en mars pour nous pour Enfin, on nous a dit clairement de quoi il était question. Lost Judgment, la suite de Judgment, etc. Et est-ce que vous voulez, est-ce que ça vous intéresserait d'enregistrer 5 questions en vidéo auxquelles, et une ou deux seront sélectionnées par Toshihiro Nagoshi, le producteur du jeu, pendant un stream qui sera diffusé, et ils répondront à vos questions. Et il y aura différents médias de différents pays qui participeront à cette conférence, en fait, qui n'était pas du tout en direct, pour le coup, c'était une fausse émission en direct.
Ça avait été monté, justement, oui, voilà, pour du rythme et faire intervenir tous les journalistes du monde entier, dont
c'est
toi.
C'est pour ça qu'ils nous ont contactés dès mars, en fait, pour qu'on ait le temps de faire nos vidéos et leur envoyer, et ensuite, eux, de monter leur truc. Et ce qui était doublement intelligent, j'ai trouvé, c'est que non seulement ils nous ont dit que le jeu allait arriver, mais ils nous ont filé un document avec des images et plein d'infos sur le jeu pour qu'on puisse préparer nos questions. Parce que des fois, nous dire, voilà, ça arrive parfois qu'on nous propose des interviews sans savoir de quel jeu il s'agit. Donc on nous dit, ouais, il faut que vous acceptiez cette interview et que vous prépariez des questions sans avoir absolument la moindre information au sujet du jeu en question, ni même son titre, hein, tu vois, c'est...
Ou alors, des fois, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, on te propose une interview sur un jeu, il a été annoncé, on a déjà des images, donc tu te bases là-dessus, sauf qu'au moment où tu reçois tes réponses, il y a une nouvelle bande-annonce qui souvent répond à tout un tas d'interrogations, ouais, qui te fait dire, si j'avais pu l'avoir ne serait-ce qu'une seule fois, j'aurais changé plein de choses.
J'aurais posé d'autres questions.
Ouais. Voilà, j'aurais axé ma réflexion sur plein d'autres trucs, puisque la réponse est déjà là et les questions n'ont plus aucun sens finalement. Mais voilà, encore faut-il que les éditeurs choisissent de prendre un petit peu d'avance et de nous mettre dans la confidence.
Donc là, voilà, pour le coup, l'industrie du jeu vidéo, hein, tout le monde le sait, c'est c'est le secret de défense total et permanent. Et là, avoir eu un peu de souplesse, ça nous a facilité le travail et ça a permis à Sega, de son côté, de faire quelque chose d'un peu innovant. Et donc, je voulais saluer ça parce que j'ai trouvé cette manière de faire à la fois originale et intelligente et intéressante. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc pour ce qui est de Lost Judgment en lui-même, c'est la suite directe de Judgment, avec une nouvelle intrigue. En fait, c'est comme les jeux Yakuza, tu sais, il y a une lignée, mais tu peux prendre les épisodes séparément et ils ont une intrigue qui est self-contained, comme disent les Anglais. Donc tu peux te contenter de jouer à ce jeu-là sans avoir fait le précédent.
Des one-shots dans la continuité, en fait, d'un fil rouge quelque part.
Voilà, c'est ça. Et donc cette fois, vous incarnez encore Takayuki Yagami. La différence, c'est que le Judgment se passait uniquement à Kamurocho, donc le quartier historique des Yakuza. Et bien là, ça se passera et à Kamurocho et à Yokohama, donc toute la zone qui a été inaugurée dans Yakuza 7, et bien elle est réutilisée parce que ce sont un peu des disciples de Lavoisier chez Ogakutoku Studio. C'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, on n'a pas créé un grand quartier immense comme ça pour rien.
Pour l'utiliser qu'une fois, hors de question.
Comme on a des jeux à sortir tous les ans, hein, on optimise le boulot. Et une fois encore, hein, aussi bien les Yakuza que le premier Judgment, ce sont des jeux qui sont vraiment ancrés dans leur époque au moment où ils sortent, qui s'intéressent à des problèmes de société très japonais, des problèmes qui existent bel et bien. Par exemple, le premier Judgment, tu parlais du vieillissement de la population et des problèmes liés à Alzheimer que ça pouvait créer. Après, il y avait un peu de fantaisie par-dessus avec une société pharmaceutique essayait de créer un remède avec des problèmes que ça pouvait créer, etc. Et donc là, la thématique principale qui va être abordée, en tout cas d'après les informations qu'on nous a communiquées pour l'instant, c'est le harcèlement scolaire. C'est un problème qui existe dans le monde entier, mais qui est vraiment particulièrement présent au Japon. Et donc en gros, le pitch, la base de l'histoire, c'est visiblement un père dont le fils s'est suicidé, je crois, à cause de harcèlement scolaire. En fait, le père a priori fait justice lui-même. Il a kidnappé le harceleur et il l'a fait assassiner. Sauf que pour se couvrir, et ce père va aller dans le métro je crois qu'il agresse une femme, il tripote une femme dans le métro pour se faire arrêter. Et comme ça, au moment où lui se fait arrêter et qu'il est accusé d'un truc, il peut pas être à deux endroits en même temps. Donc
alibi en béton.
Voilà, pendant son procès, pour agression sexuelle. Il va dire, vous n'auriez pas retrouvé un cadavre il y a à tel endroit quelques jours. Et en fait, il s'avère qu'effectivement, il y a un cadavre qui a été trouvé. Mais en termes de date, ça peut pas coller. Tu vois, il est au courant visiblement, mais il peut pas avoir fait deux choses en même temps. Donc, il s'avère qu'il a fait, il a essayé visiblement de faire justice lui-même, mais de manière indirecte. Et donc, Yagami va être mis sur le coup, parce que c'est un ancien avocat qui est devenu détective privé. Et donc, il va devoir mener l'enquête là-dessus. Mais comme toujours dans les jeux du Ryuga Kotoku Studio, ce qui peut partir d'un point unique prend des envergures pas possibles avec énormément de rebondissements et de personnes impliquées, parfois jusqu'aux très hautes sphères de la société japonaise. Et là où il y aura une particularité dans Lost Judgment, c'est que ça va en partie se dérouler dans un lycée. Donc, il y a un petit côté 21 Jump Street où Yagami va devoir, je sais pas s'il s'infiltre vraiment ou si ils savent qu'il, enfin,
parce que quand il est trop vieux, il avait l'air de garder son cuir, et puis effectivement la modélisation du personnage accuse entre guillemets son âge réel, quoi. Ouais.
Donc il est clairement trop vieux pour se faire passer pour un lycéen comme Johnny Depp le faisait dans 21 Jump Street, mais donc il va s'incruster dans ce lycée d'une manière ou d'une autre pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et qui sont les personnes impliquées, etc. Mais après, les forces de défense japonaises, la pègre locale, etc. Enfin, il y a plein de groupes qui vont être intégrés à cette histoire. Et donc, les scénarios dans les jeux du Ryuga Kotoku Studio sont toujours intéressants. Et là, comme ça traite d'une thématique un peu jamais vue dans un jeu vidéo, le harcèlement scolaire au Japon, c'est pas trop
un petit bout dans Persona 5, ouais. Quand même au début, c'était pas du tout l'intrigue principale, voilà. C'était évoqué plutôt en début et ça revenait après de temps en temps.
C'était lié à un enseignant en particulier, etc. Donc là c'est différent. Donc il va y avoir apparemment une intrigue principale très sérieuse, comme toujours, et des quêtes annexes un peu plus légères, un peu plus rigolotes. Et apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce qui est un peu plus léger sera lié vraiment au lycée. Comme on a pu le voir dans les premières vidéos du jeu, il y a tout un tas de nouvelles activités annexes qui vont être créées spécialement pour ce jeu et qui vont être liées au lycée. Par exemple, Yagami va pouvoir faire de la boxe, donc il va pouvoir aller au club de boxe du lycée. Il va pouvoir aussi aider la troupe de danse. Et donc là, ça sera un mini-jeu de rythme, sachant que Takuya Kimura, donc l'acteur chanteur qui prête ses traits à Yagami, est lui-même ancien membre de boys band et qui est assez porté sur la danse aussi. Donc je pense que ça va être assez rigolo.
Il y a toute la palette de talent déjà en lui pour ça.
Et donc ça va être rigolo, sachant que la map de Yokohama, elle est quand même beaucoup plus grande que Kamurocho, et que là, c'est pas un RPG au tour par tour avec les affrontements, etc. Bon, il y aura des affrontements, mais plus direct. Pour faciliter le déplacement sur la map, apparemment, Yagami pourra faire du skate. On l'a vu brièvement dans la vidéo. Cool. Il sort un skate à un moment dans les rues, donc j'ai l'impression que ça sera en deux temps. Je pense que tu auras un mini-jeu avec un half-pipe où tu pourras faire du skate, et tu auras aussi les déplacements quotidiens, on va dire, en skate également. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est plutôt innovant.
Et puis ça fait vraiment How Do You Do Fellow Kids, quoi. Là, on a la panoplie complète du vieux qui s'incruste dans la nouvelle génération.
Il y a des montages qui ont été faits avec cette vidéo, justement, où ils incrustaient la tête de Yagami sur cette séquence How Do You Do Fellow Kids. Donc c'était assez marrant. On se souvient dans le premier Judgment, il y avait les phases d'enquête, tu sais, où tu étais sur une scène de crime et tu devais trouver des indices. Tu avais les interrogatoires aussi, où tu devais faire des bons enchaînements de dialogues, justement, pour réussir à avoir des infos supplémentaires et à progresser comme ça. Donc ça, visiblement, ça sera de retour. Mais parmi les critiques du premier Judgment, il y avait justement ces prises de filature qui pouvaient sembler interminables, où il ne se passait pas grand-chose, où juste à certains moments, tu devais te cacher pour que la personne que tu suis ne te voit pas. Là, apparemment, ils disent que tout ça a été peaufiné, mais ils n'ont pas vraiment donné de détails à ce sujet. Ils ont juste parlé des mécaniques qui ont été ajoutées en plus de ça. Donc, par exemple, et ça, c'est vraiment inédit pour un jeu du studio, un Yakuza et un Yakuza-like, Yagami pourra grimper sur les immeubles. Apparemment, il pourra faire un peu du parcours pour essayer d'atteindre certaines zones sans être vu ou des choses comme ça, ou se déplacer plus vite. Donc, il y aura un peu d'éléments de parcours. Il y aura aussi de l'infiltration en plus. Par exemple, il pourra vraiment se faufiler derrière les ennemis pour les éliminer discrètement sans être vu, sachant que la subtilité de la série des Yakuza dans les affrontements, l'infiltration, c'est pas trop ça généralement. Donc il y aura ça. Ça a été très brièvement évoqué. Il pourra appeler un chien. Un petit chien pour utiliser son flair pour venir dénicher des trucs. Alors, je ne sais pas trop dans le détail comment ça s'intégrera au gameplay, mais c'est une nouveauté qui peut être rigolote. Je pense que, sachant la popularité des chiens sur le net, ça pourrait donner des scènes. Je pense que ça a été très conçu avec ça à l'esprit, une fois encore, le partage et le buzz que tu peux générer.
C'est une manière supplémentaire de communiquer, oui, carrément.
Donc pour ce qui est des combats, là on revient à de l'action directe, hein, c'est pas du tour par tour, ça reste sur Yakuza. Yagami peut toujours se battre plus directement. Il y a les deux styles de combat du premier jeu qui sont de retour. Donc tu avais le style de la grue, très acrobatique pour affronter plusieurs ennemis à la fois. Tu avais le style du tigre qui était plus brutal, plus direct, qui est pour justement plus du 1 contre 1. Et ils ont ajouté un troisième style de combat qui est le style du serpent. Et j'ai trouvé l'explication de ce style assez intéressante. En fait, c'est tu utilises l'élan de ton adversaire contre lui. Et tu peux aussi le mettre hors d'état de nuire d'une manière pas trop brutale. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'endormissement, de clés, de choses comme ça. Et le producteur du jeu expliquait que ce style avait été ajouté parce qu'à certains moments, tu vas être amené à affronter des lycéens.
Et il ne faudrait pas trop les violenter non plus. Voilà, surtout si le thème, c'est le harcèlement, la violence scolaire, ça serait malvenu.
Voilà, c'est pour ne pas être trop violent avec les lycéens. Et je trouve ça assez intéressant parce que dans les jeux, les beat'em all, les trucs comme ça, un style qui est plus un style d'autodéfense avec une violence mesurée justement pour mettre hors d'état de nuire mais sans trop blesser les adversaires, parce que on sait que les Yakuza niveau violence ils y vont assez franco généralement. Donc je trouve que c'est une nouvelle couche assez intéressante qui peut être ajoutée sur les combats. Alors après, dans les Yakuza, le style de combat tu le choisis comme tu veux. Donc à moins qu'ils intègrent une mécanique et lorsque tu affrontes des lycéens, tu utilises que ce style de combat-là, potentiellement tu pourras déglinguer du lycéen avec violence si tu le souhaites. Donc ça, c'est à voir. Il y a aussi d'autres mini-jeux qui ont été ajoutés, visiblement des courses de, tu sais, des combats de petits robots téléguidés, des trucs comme ça, de la course de moto aussi. Enfin, les jeux Yakuza et assimilés, donc dont Judgment, sont toujours ultra généreux. En termes de contenu, d'activité, etc. Donc là, je pense que ça va être au moins aussi bien à ce niveau-là. Et en plus, il y a toujours beaucoup de recyclage dans ces jeux-là, mais là, il y a beaucoup de mécaniques et d'activités qui ont l'air d'avoir été vraiment créées pour cet épisode-là. Donc pour les gens comme moi qui connaissent par cœur tous les épisodes de la série, il va y avoir pas mal de choses nouvelles à découvrir. Donc ça, c'est plutôt cool. Visuellement, c'est le moteur, c'est le Dragon Engine utilisé par les derniers épisodes de la série. Mais bon, là, je pense que ça a été un peu plus pensé pour la next-gen, même si ça reste un jeu cross-gen, hein, une fois encore. Il nous parle de résolution plus élevée, de temps de chargement raccourci, etc., d'un framerate plus élevé. Donc, ce petit confort qu'on a pu apprendre à apprécier ces derniers temps avec l'arrivée des nouvelles consoles, et par exemple le remaster du premier Judgment qui, pour le coup, passe en 60 FPS aussi d'un seul coup. Donc ça, ça va être de retour, ça va être plutôt cool. Certains personnages bien aimés du premier épisode, dont l'acolyte de Yagami et Kaito, ils seront de retour aussi avec tout un cast de personnages inédits, plus des personnages inédits incarnés par des acteurs bien connus au Japon. Ça, c'est un point de marketing qui touche un peu moins le public occidental, mais au Japon, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant, parce que les visages, tu sais, du Dragon Engine sont quand même assez réussis et assez réalistes, et on reconnaît très bien les comédiens lorsqu'ils sont célèbres.
Et, bon, là, et lorsqu'ils se font pincer aussi, du coup.
Et lorsqu'ils se font pincer aussi, ouais, là, ça sera encore le cas cette fois. Donc voilà ce que je peux dire, parce que là encore, moi, le jeu, j'ai pas pu y jouer. Hein. C'était vraiment une première présentation assez riche en termes d'informations.
Notamment en termes de localisation. Hein.
Ah oui, et ça aussi, tu fais très bien de le dire. Une fois encore, là, c'est logique, maintenant, c'est leur nouvelle politique. Hein. Le jeu sera sous-titré en français. Vous aurez, vous aurez deux pistes audio, une en japonais, une en anglais. Pour les sous-titres en anglais, vous aurez deux pistes. Ça, c'est assez dingue, mais je trouve ça super qu'ils fassent ça. Une piste en anglais de sous-titres qui sera très proche du doublage anglais de ce qui est dit, et une piste de sous-titres en anglais qui sera plus proche des dialogues originaux en japonais. Et nous, notre piste de sous-titres en français qui, elle, sera plus proche des dialogues originaux japonais. Je trouve que c'est le meilleur choix, enfin, personnellement, parce que quand tu joues depuis la France à un jeu comme Judgment, je pense que tu es plus tenté de mettre les voix japonaises avec les sous-titres en français plutôt que les voix anglaises avec les sous-titres français. Donc ça, c'est...
En termes d'immersion, t'es quand même un petit peu mieux. Je trouve ça beaucoup plus raccord. Et c'est bien que ces gars prennent le temps et ce souci du détail, justement, de se baser sur la version originale vraiment pour traduire des textes littéraux, vu qu'on n'aura pas de VF audio à proprement parler, autant s'inspirer de la version japonaise. Ouais.
Et la grosse, grosse nouveauté de cet épisode-là, c'est que c'est une sortie mondiale. Moi je sais, parce que j'en ai parlé plusieurs fois avec des gens chez Sega qui me disaient que c'était vraiment un objectif de longue date, et de toute façon on a vu au fil du temps les
fenêtres de sortie se rapprocher un petit peu.
Ouais. Depuis que l'équipe de localisation actuelle de Sega a repris le dossier depuis Yakuza 0, en fait, depuis la sortie de Yakuza 0, les fenêtres de l'écart de lancement entre le Japon et l'Occident ont diminué. Et là, on en arrive au point où maintenant, ils vont réussir à sortir ça partout en même temps. Et là encore, ce n'est pas juste un essai avec Lost Judgment, c'est vraiment ce qu'ils vont vouloir faire à l'avenir. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour les fans comme moi qui devaient attendre à chaque fois et qui risquaient de se faire spoiler, parce que quand le jeu sort 6 mois en avance au Japon et que tu suis l'actualité d'une série, progressivement, les Japonais avancent et donc ils partagent des choses. Donc c'est assez difficile de se préserver. Donc là, maintenant, on aura plus ce problème-là. Donc ça sort
le 23 septembre.
24 septembre, oui, 24 septembre.
Partout dans le monde, du coup.
Partout dans le monde. Et je crois que j'ai l'impression que certaines personnes qui réserveront la version des maths sur le PSN, alors peut-être sur les autres stores aussi, j'ai l'impression qu'il y aura une histoire d'early access de 2 ou 3 jours. Mais ça, c'est à vérifier. Et apparemment aussi, pour la première fois de la série, et quand je dis série, je compte Yakuza aussi, il y aura un season pass. Il y a toujours eu un peu de DLC dans les Yakuza, etc. Mais c'était des objets soit cosmétiques, soit des petits bonus. Rien de lié à l'intrigue ou rien de vraiment utile. Et donc là, apparemment, il y aura du contenu scénarisé en plus. Donc ça, ils se mettent à ça. Ils ont mis le temps. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle parce que les jeux de la série ne le nécessitaient pas jusqu'à présent. Alors si l'histoire de base reste aussi riche et aussi dense, etc., que celle des précédents épisodes, pourquoi pas. Après, si ça vient amputer un peu du contenu de base pour pouvoir vendre un truc à côté, je sais pas. Mais là encore, c'est bien trop tôt pour vraiment déterminer l'impact de ce Season Pass sur le contenu du jeu. Mais a priori, les jeux du Ryuga Kotoku Studio sont généreux. Et je pense qu'on est bien parti pour que ça soit le cas une fois encore. Et c'est marrant parce que, vu les thématiques... toi qui es un grand fan de Ace Attorney et de Phoenix Wright, etc., je me suis toujours dit que Judgment, ça pouvait être potentiellement une thématique, un univers qui pourrait t'intéresser.
Mais je l'avais commencé, hein. J'en parlais avec Poufy tout à l'heure, je l'ai juste abandonné parce que le métier faisant, il y a plein d'autres jeux qui sont arrivés à ce moment-là et du coup j'ai pas pensé à le relancer, mais j'avais commencé Judgment parce que justement à cause de ça, cette thématique un petit peu judiciaire entre l'ex-avocat devenu enquêteur me plaisait beaucoup. Et à la limite, je ne sais pas s'ils en ont parlé, mais l'une des améliorations qui pourrait trouver par rapport au premier, je trouve que c'est dans la gestion des temps de chargement et des différentes zones, parce qu'il avait encore une architecture très japonaise à l'ancienne, je trouve, avec tu rentres dans un bâtiment, ça charge, tu changes d'environnement, et du coup, tu perds un tout petit peu en fluidité, et t'as surtout l'impression d'être sur une ancienne génération de consoles. Je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus, à agrandir peut-être les zones grâce à ce côté cross-gen. En tout cas, c'est l'un des petits défauts que j'avais retenu du premier pendant les quelques heures où j'avais joué.
Et dis-toi que Judgment, avec le Dragon Engine, c'était déjà plusieurs pas en avant à ce sujet, parce que tu vois, dans certains commerces, par exemple, in-game, tu pouvais rentrer sans temps de chargement. Il ouvrait la porte sans temps de chargement pour chaque endroit.
Et c'est ça qui était bizarre. Certains étaient accessibles immédiatement, et pour d'autres lieux, tu avais un temps de chargement où tu voyais bien que tu changeais de zone, et la même chose dans l'autre sens. Et c'était assez étonnant. C'est rare d'avoir cette espèce d'entre-deux. Il n'y a que les Japonais qui font ça.
Bah, je sais pas trop parce que c'est pas un élément sur lequel ils ont insisté pour l'instant, donc faudra voir. Après, l'avantage des nouvelles consoles, c'est que justement les temps de chargement sont réduits comme peau de chagrin. Tu vois, par exemple, dans Yakuza Like a Dragon, quand tu joues sur Xbox Series X ou sur PS5, oui, il y a certains environnements qui ont une coupure plus nette, mais les temps de chargement sont quasiment instantanés, donc ça
réduit, ça fait passer la pilule, oui.
Voilà, ça réduit quand même pas mal la nuisance provoquée par ce genre de truc. Et un autre élément qui était assez intéressant avec le premier, en plus de traiter du vieillissement de la population, etc., c'est qu'il traitait du système judiciaire japonais, qui est vraiment très différent d'une autre.
Et, à charge.
Et voilà, à charge, quand t'es... Et ils le disent explicitement dès les premières secondes du jeu, hein, quand t'es inculpé au Japon, t'as 99% de chances d'être reconnu coupable et d'être condamné. C'était marrant parce qu'en plus, le jeu sortait plus ou moins au moment de l'affaire Carlos Ghosn, donc tu pouvais faire vraiment des parallèles entre les deux, entre les deux trucs.
Le premier Ace Attorney commence presque sur cette citation aussi, avec la même stat, 99% des personnes mises en examen sont déclarées coupables.
Et c'était marrant parce que c'était presque une, comme diraient les Anglais, une compagnie Companion Peace à l'affaire Carlos Ghosn, quoi. Si tu voulais avoir un éclairage sur le système judiciaire japonais, tu jouais à Judgment et ça te donnait plein d'infos que tu n'as pas forcément quand tu suis l'affaire depuis la France. Et donc là, je pense que le côté le système judiciaire japonais va être traité à nouveau, avec en plus toute la sphère du harcèlement scolaire et certainement d'autres points très spécifiques. Donc c'est marrant, en fait, si tu as vraiment envie d'en apprendre plus sur la culture et la société japonaise dans son ensemble, si tu te fais les différents Yakuza et Judgment, etc. Et à chaque fois, il y a des points différents qui sont traités, et c'est assez intéressant à ce niveau-là si tu t'intéresses à des choses autres que le gameplay.
Bah, on découvrira ça du coup d'ici l'automne.
Hein, et ça rappelle. Sort toutes les consoles. Pas de version PC annoncée pour l'instant. Je serais pas vraiment étonné, sachant les pratiques actuelles de Sega, que ça sorte sur PC aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S.
Voilà, donc évidemment, tu nous en reparleras dès que tu auras l'occasion de mettre les mains dessus, mon cher Romain, en espérant qu'il y ait une session preview qui soit organisée d'ici la sortie. Et puis, du coup, c'est tout en ce qui nous concerne. On a fait le tour de l'actualité. On n'a plus qu'à remercier notre cher Poufy, une fois de plus, d'avoir assuré toute la technique. Merci à toi, mon cher Romain. Merci à Johnny, de là où il est, je suis sûr qu'il nous regarde. Et merci à vous, très chers auditeurs, auditrices. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode des podcasts de Gameblog, sans plume, bien évidemment, puisque ces vacances vont être, comme vous le savez, prolongées. Nous, par contre, on sera là. Hein. Faut bien qu'il y en ait qui bossent de temps à autre pour assurer à minima l'intendance. Merci une fois de plus d'avoir été avec nous. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine sur Gameblog. Ciao.
Ciao.